Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici, au lieu-dit nommé Vialgue, sur la commune de Saint-Rome-de-Cernon. Nous sommes allés à la rencontre d'un éleveur, Christian Cross, qui remet l'estive et la transhumance à l'ordre du jour. Installé avec sa compagne Michèle Valette, il possède 400 brebis laitières et produit en bio du lait pour Roquefort. C'est la troisième fois cette année qu'ils mettent en place une estive pour leur troupeau. De septembre à début octobre, ils transhument jusqu'à des terrains communaux situés sur le plateau de Roquescâtre. Les raisons de cette estive données par Christian Cross, éleveur à Vialgue.
C'est une grande réflexion par rapport à ces sécheresses à répétition qui nous ont amené que bon, on n'était plus trop autonome en herbe quand il faisait très sec. Comment conserver ce même nombre de brebis sur une surface bien définie? Donc effectivement, on n'avait pas assez d'espace, donc c'est là que la mairie nous a dit « mais nous, on a des communaux à l'arrière à vous proposer, c'est à vous de voir si ça vous convient ou autre ». Donc effectivement, nous sommes montés sur ces parcours qui sont en altitude un peu sur la commune. Effectivement, on a vu que cet espace était bien en adéquate avec la brebis laitière. Là, il y a 200 hectares d'un seul tenant, et donc l'été, on transhume le troupeau, on prend le troupeau d'exploitation et on le transhume sur ces parcours-là. Le but, voilà, c'est qu'il nous manquait des stocks fourragers, notamment pour l'hiver. Parce que quand il fait sec, il fallait déjà entamer au mois d'août les stocks récoltés du printemps. Parce que, bon, il nous manquait un peu d'espace et donc de l'herbe. Le fait qu'on transhume tout le troupeau, donc c'est 3 heures de route pour les brebis, de chemin. Donc effectivement, là, on va rechercher de l'herbe qui n'était pas utilisée, quoi.
Alors j'imagine que ça a remis en cause toute votre organisation au niveau de l'exploitation. Comment vous avez fait pour mettre en place cette estive ?
Oui, c'est vrai que c'est quand il faut transhumer le troupeau, c'est-à-dire le prendre dans l'exploitation et le transhumer, c'est-à-dire le déplacer, il faut le réfléchir. Pour aller sur les terres, c'était pas très très difficile, mais après voilà, se poser le problème qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'abri. Et après, c'est garder les brebis ou les mettre en clôture. Donc, vu le contexte, c'est vrai qu'on a préféré le gardiennage des brebis parce qu'on avait le souci des chasseurs qui, eux, s'opposaient à ce qu'on pose les clôtures ou autre. On met un berger pendant 2 mois et lui, il est complètement autonome. C'est lui qui se gère sa nourriture, c'est lui qui se gère ses chiens. Enfin, donc, nous, il n'y a qu'à y amener l'eau pour le troupeau et un peu de céréales.
Cette estive de 2 mois permet d'économiser le fourrage, mais aussi de laisser reposer les pâtures proches de la ferme. Une gestion différente qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Christian Cross.
La première année, en 2012, c'est pas bien passé, parce que bon, c'était déjà la première fois que ce troupeau-là, on les mettait en plein air total, et c'est vrai qu'ils n'avaient pas l'habitude. Dès qu'il pleuvait, ben, ils avaient leur bergerie. Après, il y a eu le souci bon, des parasites. On n'avait pas voulu distribuer aussi de la céréale, un complément alimentaire, mais ça. Donc c'est vrai qu'en 2012, ça n'a pas été très bénéfique. Donc après, ça a demandé des réflexions. Donc ça ne nous a pas échaudé pour l'année suivante, quand on est revenu. On a essayé d'améliorer, notamment sur le parasitisme, l'éthique, notamment. Puis amener un peu de céréales.
Ces 2 années d'estive ont permis à Christian Cross d'évaluer les besoins du troupeau et de s'adapter à cette nouvelle pratique. Parmi ces besoins, s'est rapidement fait sentir la nécessité de protéger le troupeau des intempéries. Aujourd'hui, il ne lui manque plus qu'un abri pour finaliser son projet.
Donc, le projet, bon, il a été mûri dès le départ, mais construire sur ces terrains-là, ce serait des communaux, c'est des terrains protégés, parce qu'à l'époque, il y avait des sapins, enfin autre. Donc le maire, la mairie est sujette à changer la catégorie de terre. Et donc, c'est vrai que ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc, on est passé 2 ans sans abri. Là, on va voir la 3e année. Bon, pour moi, on a déposé un permis. La mairie l'a accepté. La sous-préfecture, pour moi, le refuse parce que pour des raisons un peu bizarres. Mais bon, on va y arriver. La mairie va pousser pour effectivement mettre ses revues à l'abri.
Vous avez dû avoir des contraintes au niveau de sa construction. Quelles sont-elles?
Eh bien, d'abord, c'est savoir le type de... Bon, ça, on a travaillé ça avec le parc. Quel type de bâtiment on pouvait faire le plus économe possible. Faire une bergerie, un bâtiment. Après, économiquement, c'est le tunnel avec une bâche, bien sûr, qui est utilisé pour 3 mois de l'année. Je veux dire, c'est pas...
Et donc, qui se démonte.
Voilà, oui. faut faire un bâtiment qui se démonte. Mais bon, l'ossature métallique restera, la bâche, on doit l'enlever. Oui, on doit l'enlever.
La mise en place d'un bâtiment provisoire sur des terrains protégés a de nombreuses contraintes. Pour mener à bien leur projet, Michel Vialette et Christian Cross ont fait appel aux cellules conseil du Parc naturel régional des Grands Causses. Didier Ossibal, chargé de mission urbanisme au parc, nous présente ses cellules d'accompagnement.
On a initié une réflexion qui s'appelle les cellules locales de conseiller architectural, qui est présidée par l'élu local et qui fait un tour de table pour répondre aux questions que se pose un entrepreneur, ici en l'occurrence un éleveur. Et on a fait un tour de table où les services de l'État étaient et on a proposé de créer un abri provisoire pour l'estive 2014. Donc il y a eu une procédure de demande de permis de construire. Christian a évoqué tout à l'heure la dernière conclusion. Nous, en parallèle, le parc, on essaie à l'échelle du territoire et avec d'autres parcs, du Massif central, de réfléchir à ces abris de pâture, puisque de plus en plus, avec le réchauffement climatique ou la mutation climatique qui se passe, il y a des problèmes de rendement en herbe, de sol, et on va être, si on veut conserver un élevage, on va être obligé d'aller pâturer dans des zones, par exemple en milieu forestier. Le sylvopastoralisme. Pour pâturer en milieu salarié, il ne suffit pas de dire on va pâturer, il faut des équipements. Et dans ces équipements, il y a les points d'eau, il y a des clôtures, il y a des abris peut-être pour bergers et il y a des abris pour troupeaux. En l'occurrence, ici, c'est essentiel à cause de la spécificité brebis lacone roquefort, filière roquefort. C'est vrai qu'il y a des troupeaux plus rustiques, mais dans le cadre de la production laitière en roquefort, il y a une fragilité. Voilà. Donc la question de l'abri de pâture sur des zones naturelles des documents d'urbanisme se pose. On a travaillé avec la Chambre d'agriculture et les services de l'État pour cadrer une réflexion là-dessus, pour autoriser la construction de ces abris. La seule chose, c'est que c'est des réflexions qui durent et les lois ne sont pas passées. Donc pour le moment, on peut et aménager des abris de pâture à partir du moment où le document d'urbanisme est récent, c'est-à-dire sur les PLU ou les PLU intercommunaux, parce que là, le parc et la Chambre d'agriculture a demandé à ce que ça soit possible, et c'est possible. Par contre, sur les anciens documents, il faut attendre la révision de ces documents. Et là, on est un petit peu dans l'expectative. La réflexion qu'on est en train de mener, c'est plus pour donner des règles communes, pour pas qu'il y ait de débordement, ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que ces bâtiments-là soient bien affectés à l'élevage et pas à de la diversification ou à de la résidence secondaire par la suite.
S'il y a un exploitant qui veut mettre en place une estive et, comme dans ce cas, mettre un abri, il peut se tourner vers vous ?
Alors oui, on a ce programme-là de cellules conseil est toujours en place. Ça ne donne pas des autorisations, mais ça permet d'avoir un tour de table et de répondre à des questions que se pose le porteur de projet. Alors ça, c'est en place. On l'a donc maintenant depuis 2 ans. On n'a même pas eu à faire de la publicité. Les rendez-vous sont remplis. Alors c'est vrai qu'on a eu surtout le monde agricole, mais on a aussi des artisans, des professionnels du tourisme ou des gens qui veulent, des agriculteurs qui veulent se diversifier au niveau de l'accueil. Voilà, et ça marche très très bien. Et on a, pas solutionné, mais on a participé par ces cellules conseil à débloquer des situations. Et je pense que le cas de Roques 4 et de Saint-Rome de Cernon trouvera des solutions.
Ces projets d'estive, ça rentre en adéquation avec le parc et ses missions.
Absolument. C'est le parc, en gros, des naturels régionaux des Grands Causses. Il a été créé sur cette image de Causses semi-désertiques avec des brebis qui pèsent dessus. C'est une image qui devient de plus en plus folklorique. Et notre mission, c'était de maintenir ces pelouses sèches. Et on s'aperçoit qu'objectivement, malgré les convictions, malgré les arguments techniques, c'est difficile de lutter contre cette fermeture même de ces pelouses sèches sur le Causse. Alors, la guerre n'est pas perdue, il y a encore des batailles à mener, mais je tente que peut-être le maintien d'un pastoralisme extensif sur l'Écosse peut se faire dans le cadre du sylvopastoralisme, c'est-à-dire sur ces zones de pâture qui commencent à se couvrir par des pins sylvestres et des chênes, et on pourrait, en sous-bois, avoir des zones plus fraîches et avec une herbe plus grasse, un petit peu plus grasse. Voilà. Et c'est peut-être le sylvopastoralisme qui va venir au secours du pastoralisme extensif sur l'Écosse, et pas forcément sur les pelouses sèches.
Le maintien des milieux ouverts et du pastoralisme est une des missions du Parc naturel régional des Grands Causses. Une mission qui réalise avec l'aide des acteurs sur le territoire, comme nous l'explique Didier Ossibal.
On est des territoires qui ont de moins en moins d'acteurs, donc il faut que les collectivités locales, ou même des locales, l'Europe, l'État, la région, s'intéressent de près à ces acteurs, parce que c'est ce qui nous manque, on a de plus en plus de résidents et de moins en moins d'acteurs, quoi. Donc il faut faire, entre guillemets, corps pour soutenir ces acteurs, et surtout les jeunes. Je pense qu'on est là pour ça, quoi. C'est le parc sans habitants, c'est plus un parc.
C'est une carte postale.
C'est une carte postale. Là, nous, le paysage, c'est fait par les habitants, donc s'il n'y a plus d'habitants, il n'y aura plus de paysage.
Et donc c'est important de soutenir les habitants et leurs projets.
Ah oui, absolument. À mon avis, c'est la mission essentielle du parc, dans le cadre, bien sûr, de l'intérêt des patrimoines pour lesquels il a été labellisé. C'est-à-dire, bon, le patrimoine, il est naturel et culturel du territoire.
Merci Didier Ossibal.
Merci à Radio Centrafrique.
Si vous faites partie de ces acteurs du territoire et que vous souhaitez être conseiller dans la construction et la restauration de bâtiments d'habitation ou d'activité, n'hésitez pas à contacter le Parc naturel régional des Grands Causses. Visitez le www.parc-grand-causses.fr.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du Parc naturel régional des Grands Causses.